Liberté, égalité, fraternité. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est la devise de la France, bien sûr. Et mieux encore, ce sont les valeurs de notre République. Mais comment donner vie à ces mots inscrits dans la pierre, sur le fronton de nos édifices publics?
C'est à cette grande question que les élèves de 3e 4 du collège Jules Verne de Vittel ont tenté de répondre dans le cadre de leur cours d'EMC. Au-delà d'un simple travail scolaire, c'est tout l'enjeu de la transmission et le sens de ces valeurs qui se jouent. Cette série de podcasts intitulée « Les valeurs de la République en action » est le résultat de leur travail et de leur découverte. Vous y croiserez des hommes et des femmes du XXe siècle, aux histoires et aux destins très différents. Mais tous partagent un point commun. À un moment de leur vie, ils ont choisi de se battre pour la liberté, l'égalité et ou la fraternité. Gageons que ces grandes figures continueront à inspirer la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, afin que ces valeurs, françaises bien sûr, mais finalement universelles, ne restent pas seulement inscrites dans la pierre. Nous commençons avec une créatrice de mode bien connue, qui n'a pas hésité à piocher dans la garde-robe des hommes pour libérer les femmes.
Bonjour tout le monde, c'est Paul. Je suis accompagnée de Clémentine.
Bonjour.
Et Lorina.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie d'une célèbre créatrice de mode française du XXe siècle. Alors Clémentine, quelles sont les valeurs que défend Coco Chanel ?
Coco Chanel défend l'égalité homme-femme et la liberté des femmes car elle coud des robes plus courtes et des pantalons pour les femmes.
Lorina, peux-tu nous parler de Coco Chanel ?
Cette femme est Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel. Son surnom vient de la célèbre chanson qu'elle chantait en 1907 à Vichy dans des cafés. Qui a vu Coco dans le Trocadéro ? Elle est née le 19 août 1883 à Saumur et décédée le 10 janvier 1971 à l'hôtel Ritz à Paris.
Peux-tu nous parler de la famille de Coco Chanel ?
Elle est née et a vécu dans une famille pauvre. Sa mère décède à 30 ans suite à ça. Son père s'enfuit en Amérique. Elle est donc placée à l'orphelinat à l'âge de 12 ans où elle apprend à coudre à cause du froid et de la misère. À 18 ans, elle travaille 15 heures par jour comme ouvrière dans un atelier de couture.
Comment lance-t-elle sa carrière ?
En 1909, elle tombe amoureuse d'un homme d'affaires qui lui ouvre son premier magasin à Paris pour vendre ses chapeaux en jersey. Le jersey est une maille fine tricotée, utilisée principalement par l'industrie de l'habillement. Sa carrière est donc lancée.
Entre 1920 et 1930, elle donne une nouvelle allure aux femmes en créant des robes amples et plus courtes pour libérer leurs déplacements.
A-t-elle continué à libérer les femmes avec ses créations ?
Oui, avec ses cheveux et ses tenues à la garçonne, elle lance la mode des robes noires et blanches, les marinières, les petits tailleurs et les pantalons. Elle se fait aussi connaître grâce à son premier parfum, Chanel numéro 5, qui a eu un grand succès. Coco Chanel conçoit des vêtements simples, confortables et pratiques qui libèrent le corps des femmes jusqu'à là enfermées dans des corsets et des robes longues.
Et aujourd'hui, que reste-t-il d'elle ?
Aujourd'hui, elle est reconnue dans le monde entier et elle symbolise l'élégance et le chic à la française. Elle reste une icône du féminisme et une défenseuse de l'égalité homme-femme, comme sa citation « La femme est l'égale de l'homme, la femme est différente de l'homme, qu'importe, seul compte, que grâce à Coco Chanel, la femme s'habille désormais comme elle veut. »
Merci pour toutes ces infos.
À bientôt.
Nous quittons une certaine légèreté avec le monde de la mode pour suivre l'itinéraire de Jean Moulin, qui a lutté au nom de la liberté. Je laisse la parole à Stéphane, Lilian et Gabriel.
Bonjour, je m'appelle Stéphane. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Jean Moulin. Je suis en compagnie de Lilian et Gabriel.
Bonjour.
Jean Moulin était une figure héroïque de la résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale. Voici une biographie plus détaillée de sa vie. Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers, dans le sud de la France. Il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie. Jean Moulin a grandi dans une famille intellectuelle et a développé un fort attachement aux valeurs de la République française. Après des études brillantes, Jean devient le plus jeune préfet de France en 1937. Il est rapidement reconnu pour son intégrité, son efficacité et son engagement envers le service français.
Cependant, en juin 1940, la France est envahie par les forces allemandes et a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie. le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, est mis en place. Jean Moulin a refusé de reconnaître le régime de Vichy et de collaborer avec les Allemands. Il a choisi de rejoindre la résistance symbolisée par Charles de Gaulle à Londres et de lutter pour la libération de la France. En 1942, il fonde le CNR, Conseil National de la Résistance, pour unifier les différents mouvements de résistance de France sous les ordres du général de Gaulle. Jean Moulin a parcouru le pays en secret, organisant des réunions clandestines et établissant des liaisons entre les différents groupes de résistants. Il a joué un rôle crucial dans la coordination des efforts de la résistance, consolidant les forces et les ressources pour mener des actions efficaces contre l'occupant.
Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo. Il a subi de terribles tortures pour qu'il divulgue des informations sur la résistance, mais il n'a jamais cédé. Le 8 juillet 1943, épuisé et brisé, Jean Moulin a succombé à ses blessures sans trahir ses camarades et ses idéaux. L'héritage de Jean Moulin est immense. Son courage, sa détermination et son sacrifice ont fait de lui un symbole de la lutte pour la liberté et la dignité humaine. Sa mémoire est honorée en France et son nom est associé à la résistance et à la défense des droits et des libertés démocratiques.
Jean Moulin reste à jamais une figure inspirante de l'histoire française. Chaque 17 juin, une cérémonie est organisée au Panthéon en mémoire de son premier acte de résistance, le 17 juin 1940. J'aimerais terminer avec un passage du discours d'hommage du ministre de la Culture André Malraux lors de l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1964.
Après l'avoir fait torturer, l'agent de la Gestapo lui tend de quoi écrire puisqu'il ne peut plus parler. Jean Moulin dessine la caricature de son bourreau et contemple les mots de sa sœur. Son rôle est joué, mais son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous.
Jean Moulin n'a pas été le seul à résister. Des femmes aussi se sont engagées dans la résistance. Nous découvrirons successivement Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz qui, à elles deux, ont incarné les trois valeurs de notre République.
Bonjour à tous, je m'appelle Hugo et je suis en compagnie de Clara et Maëlle. Nous allons vous présenter un personnage exceptionnel, Germaine Tillion, et comment elle a incarné les valeurs républicaines d'égalité et liberté pendant sa vie. Mais d'abord, nous allons vous raconter un peu plus d'informations sur elle.
Germaine Tillion est née le 30 mai 1907 à Allègre, à l'ouest de Lyon. Elle est morte en 2008 à l'âge de 101 ans. Elle fait des études d'histoire de l'art et de préhistoire à l'école du Louvre. Elle sort diplômée de l'Institut d'ethnologie en 1932 et elle devient ethnologue.
Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Début juin 1940, la France est envahie et vaincue par l'armée allemande. Le maréchal Pétain signe l'armistice qui signifie l'occupation de la France par les nazis. Germaine refuse la défaite et entre en résistance à partir de 1940. Elle devient chef de la filière d'évasion des prisonniers de guerre. Après l'arrestation de tous ses camarades, elle rejoint le réseau Gloria qui a pour mission de trouver des informations militaires pour le compte des Britanniques. Elle est trahie par l'abbé Robert Alèche et elle est arrêtée en août 1942, puis déportée à Ravensbrück en octobre 1943. Dans le camp, elle fait la rencontre de Geneviève de Gaulle sur laquelle un autre groupe d'élèves de notre classe a travaillé.
Pendant qu'elle est enfermée dans un camp de concentration, grâce à sa force, son caractère et son énergie, elle crée un esprit de solidarité, une vieille amitié entre les détenus. En 1944, elle parvient à écrire clandestinement une petite opérette qui s'appelle « Verfügbar aux enfers ». Elle réunit des femmes autour de sa création pour jouer la pièce.
Elle s'est battue pour la liberté de la France en résistant et a cherché même dans l'enfer du camp à garder un esprit libre.
Après la guerre, elle se rend en Algérie pour tenter d'améliorer les conditions de vie des Algériens. Elle met aussi l'accent dans ses recherches sur la condition des femmes.
Le 21 février 2014, le président de la République a annoncé l'entrée de Germaine Tillion au Panthéon, car pendant la seconde moitié du XXe siècle, elle a incarné les valeurs de la France quand elle était à terre.
Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015, en même temps que son amie Geneviève de Gaulle.
Merci de nous avoir écoutés, c'était Maëlle, Hugo et Clara.
Bonjour, aujourd'hui je me retrouve avec Ibtissem et Elicia et nous allons vous parler de Geneviève de Gaulle-Antonioz.
En découvrant sa vie, nous avons compris comment une personne pouvait à elle seule incarner deux valeurs de la République. La liberté parce qu'elle a été résistante et la fraternité en participant à la fondation d'ATD Quart-Monde.
En effet, voilà qui est très intéressant, il va falloir nous expliquer tout ça en commençant par nous présenter brièvement la vie de cette dame dont une partie du nom est quand même très célèbre.
Exactement. Geneviève de Gaulle Antonioz est la nièce du général de Gaulle et Antonioz est le nom de son époux avec qui elle aura 4 enfants. Mais reprenons au début. Geneviève est née le 25 octobre 1920 dans le sud de la France et est morte le 14 janvier 2002 à Paris à l'âge de 81 ans. Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015 sur la décision de François Hollande. C'est l'hommage de la nation à sa vie et aux valeurs qu'elle a incarnées.
Étudiante en histoire, quand la France est envahie par l'Allemagne en 1940, elle refuse l'armistice du maréchal Pétain. Elle choisit de se battre clandestinement pour la liberté de son pays. Elle rejoint alors la résistance. Elle est arrêtée le 20 juillet 1943 et déportée au camp de concentration de Ravensbrück le 3 février 1944.
Qu'est-ce que c'est Ravensbrück ?
Ravensbrück est un camp de travail réservé aux femmes où elle y rencontre d'autres grandes résistances, dont Germaine Tillon, sur laquelle un autre groupe de notre classe a travaillé. Puis, le 20 avril 1945, elle rentre de déportation.
Nous venons de découvrir son combat pour la liberté en acceptant tous les risques jusqu'au sacrifice de sa vie et nous allons maintenant découvrir son combat pour la fraternité.
En octobre 1958, elle découvre et visite le bidonville de Noisy-le-Grand.
C'est où Noisy-le-Grand ?
Noisy-le-Grand est une grande ville française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France. Lors de cette visite, elle y rencontre Joseph Wresinski, un prêtre fondateur d'ATD Quart-Monde.
Que signifie ce sigle et qu'est-ce que c'est ?
Le sigle ATD signifie « Agir tous pour la dignité » et c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. Le but de cette ONG est de mettre fin à l'extrême pauvreté et de construire une société plus juste. Le rapport avec la fraternité est évident. Il s'agit d'aider les personnes en situation d'extrême pauvreté. En 1964, elle devient la présidente et le restera pendant 34 ans.
En 1988, Geneviève de Gaulle Antonioz succède à Joseph Wresinski au Conseil économique et social, dont le rôle est de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale. Dans ce conseil, elle se bat pendant 10 ans pour l'adoption d'une loi contre la grande pauvreté. Cette loi est finalement votée en 1998.
Merci à vous pour la présentation de Geneviève de Gaulle Antonioz et des valeurs qu'elle a incarnées. Nous venons donc de découvrir qui est cette femme, une femme qui s'est battue pour la liberté de notre pays.
Exactement, et merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.
À bientôt.
L'horreur des camps a aussi été vécue par Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz qui n'a renoncé ni à sa liberté, ni à la fraternité.
Bonjour, je m'appelle Nathan et aujourd'hui je suis accompagné de Noé et Baptiste qui vont nous expliquer comment Alfred Nakache a fait vivre les valeurs de la liberté et de la fraternité.
Bonjour, nous allons donc vous raconter l'incroyable histoire d'Alfred Nakache. Il est né de confession juive en 1915 à Constantine en Algérie. Il est nageur professionnel et a participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. L'équipe de France finira devant l'équipe allemande sous les yeux d'Hitler.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, en novembre 1943, il est arrêté par la Gestapo car il est juif et déporté au camp de concentration d'Auschwitz. Il a échappé à la chambre à gaz grâce à un officier allemand qui était nageur et qui l'a reconnu. Il est surnommé le nageur d'Auschwitz.
Durant son séjour à Auschwitz, des officiers l'ont torturé en jetant leur poignard au fond du réservoir servant à éteindre les incendies et l'ont forcé à aller les chercher avec les dents.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il est surnommé le nageur d'Auschwitz. Il était surnommé ainsi car le dimanche, dans ce même bassin, il organisait des cours de natation dans le dos des officiers allemands afin que ses camarades de captivité gardent le moral. Il s'est battu pour sa liberté en résistant et en organisant des événements pouvant le condamner à mort. Voici pourquoi il a incarné la liberté.
À son retour du camp, en janvier 1945, il espère que sa femme et sa fille ont réussi à survivre et qu'ils vont se retrouver. Malheureusement, il apprend qu'elles sont toutes les deux mortes en déportation.
Nous savons maintenant comment il a incarné la liberté. Mais comment a-t-il incarné la fraternité ?
Nous y arrivons. À la fin des années 1960, à Sébert, à la frontière franco-espagnole, un couple de jeunes Allemands tombe en panne d'essence. Nakache s'en aperçoit et, sans rien dire, il part chercher un bidon d'essence. Au moment de leur tendre, il soulève sa manche et leur montre son matricule d'Auschwitz tatoué sur l'avant-bras. Ils sont surpris, mais Nakache leur dit « Je ne vous en veux pas, vous êtes jeunes et pas responsables, nous allons nous serrer la main, car ce qui compte, c'est la réconciliation. » Belle leçon de fraternité, vous ne trouvez pas ?
C'est donc ainsi qu'il a incarné ces deux valeurs qui sont la liberté et la fraternité. Merci Noé et Baptiste de nous avoir raconté cette magnifique histoire et bonne journée à tous.
C'est aussi dans son expérience de déporté que Simone Veil a puisé la force de ses engagements au service de la liberté et de la fraternité.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilou, je suis avec Chloé.
Bonjour.
Et Rizoul.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Simone Veil et de ses combats pour la liberté et la fraternité. On parlera de la loi Veil et de ses combats pour les prisonniers en Algérie. Nous allons commencer par vous faire une brève biographie.
Simone Veil est née Simone Jacob le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive, laïque et patriote. Elle est décédée le 30 juin 2017 à Paris à l'âge de 89 ans. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle épouse Antoine Veil, avec lequel elle a eu 3 enfants.
En parallèle de sa vie de mère et d'épouse, elle fait des études de droit, commence une carrière dans la magistrature, puis entre en politique où elle fait une brillante carrière. Ainsi, elle a été plusieurs fois ministre, comme par exemple en 1974. Elle a été ministre de la Santé. Elle a aussi été la première femme à avoir été présidente du Parlement européen en 1979.
Sa vie est une suite de combats comme elle le raconte dans son autobiographie « Une vie » publiée en 2007. Où puise-t-elle sa force ?
Elle puise sa force dans sa famille. En grande partie, dans son expérience de la déportation, elle a été déportée au camp de concentration d'Auschwitz avec sa mère et sa sœur en juin 1944, car elles étaient juives et a donc vécu la marche de la mort avec sa sœur survivante aussi, mais malheureusement, sa mère est morte. Elle a été libérée le 18 juin 1944.
Oui, nous pouvons dire qu'elle a vécu à affronter la mort. C'est sûr que survivre à cette horrible expérience peut rendre plus forte et plus déterminée.
Mais qu'en est-il de la liberté et de la fraternité qu'elle a incarnée ?
Justement, nous y arrivons. Pour commencer, parlons de la fraternité.
Magistrate entre 1957 et 1964, elle travaille à la direction de l'administration pénitentiaire où elle agit activement pour l'amélioration des sorts des détenus, non seulement sur le territoire de la France métropolitaine, mais aussi en Algérie.
Edmond Michel, ministre de la Justice et ex-déporté comme elle, décide d'envoyer Simone Veil pour inspecter les prisons en Algérie en 1959.
Avec de l'aide, elle arrive à libérer les prisonniers, faire transférer et bénéficier de traitements sanitaires. Elle qui a connu les conditions dégradantes de la captivité, elle ne peut que lutter pour la dignité des détenus. C'est sa façon de vivre la fraternité.
Et pour la liberté ?
Justement, nous poursuivons avec un autre de ses combats qui est la lutte pour autoriser l'avortement. C'est en 1974 que Simone Veil a fait voter la loi de l'IVG.
Que veut dire l'IVG ?
L'IVG veut dire interruption volontaire de grossesse. Il faut savoir qu'il n'y avait que 9 femmes à l'Assemblée nationale pour 481 hommes. Beaucoup d'hommes ne voulaient pas de cette loi. Elle s'est même fait insulter, mais elle a tenu bon.
Elle s'est battue pour que les femmes aient le choix d'avoir un enfant, qu'il soit voulu ou non.
Le 1er juillet 2018, elle entre au Panthéon. Lors de cette cérémonie, le président Emmanuel Macron lui rend hommage en prononçant un discours. Car la France aime Simone Veil, elle l'aime dans ses combats, toujours juste, toujours nécessaire, toujours aimée par le souci des plus fragiles où elle s'engageait avec une force de caractère peu commune. La France l'aime plus encore, parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force mise au service d'une humanité plus digne. Nous avons trouvé ces renseignements sur Un jour une question, un article du journal Le Soir, un autre du magazine Elle, Lumni, Enseignement et Wikipédia. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous aura plu et nous vous conseillons de regarder le film Simone Veil, Le Voyage du siècle. L'avez-vous vu, Chloé ?
Oui, ce film montre l'intégralité de sa vie, ses nombreux combats, notamment ceux que nous vous avons expliqués.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nous terminons avec l'extraordinaire destin de Josephine Baker, cette artiste noire, née aux États-Unis, et à ce jour la dernière personne à être entrée au Panthéon, après une vie d'engagement pour la liberté, l'égalité et la fraternité.
Bonjour, je m'appelle Margot. Aujourd'hui, avec Victoire et Lina, nous allons vous raconter l'histoire d'une femme extraordinaire, dont la vie incarne à elle seule nos 3 valeurs républicaines, à tel point qu'elle est même entrée au Panthéon à Paris.
Josephine Baker est née le 3 juin 1906 dans une famille noire et très pauvre à Saint-Louis, aux États-Unis, en Missouri. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants.
En 1925, elle arrive en France car la femme d'un attaché d'ambassade lui propose de l'emmener à Paris pour y monter un spectacle de danse dont elle sera la vedette, la Revue Nègre. Cela est un moment où l'on a besoin d'oublier la Première Guerre mondiale.
En 1937, elle épouse son 3e mari, Jean Lion, ce qui lui permet d'obtenir la nationalité française.
En septembre 1939, la guerre éclate. Dès le début du conflit, Joséphine se consacre à sa nouvelle patrie pour la liberté. D'abord en chantant pour les soldats pour soutenir leur morale, ensuite en s'engageant dans la résistance. Elle devient agent du contre-espionnage. Elle réussit à faire passer des messages en les codant dans ses partitions de musique.
Joséphine Baker est ensuite embauchée dans l'armée de l'air où elle devient sous-lieutenant. Elle passe une partie de la guerre en tournée en Afrique où elle collecte des informations top secrètes.
Après la guerre, son action lui vaudra d'être félicitée et médaillée. Elle reçoit la médaille de la résistance française avec rosette, ainsi que les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et la croix de guerre 39-45 avec la palme.
Son engagement ne s'arrête pas à la guerre. En 1947, lors d'une nouvelle tournée aux États-Unis, Joséphine est encore victime de la ségrégation raciale. Dans son pays natal, les Noirs ne sont pas traités comme les Blancs. Ils sont privés de certains droits, ce qui n'est pas le cas en France.
Elle va alors se dépenser sans compter. Elle se bat pour l'égalité. Elle soutient Martin Luther King, qui lutte pour les droits des Noirs.
En 1963, elle participe à la Grande Marche pour les droits civiques à Washington, fièrement vêtue de son uniforme de la France libre. C'est la seule femme à s'exprimer aux côtés de Martin Luther King, juste avant qu'il ne prononce ses fameuses paroles « I have a dream ».
Comme elle ne peut pas avoir d'enfants, au fil des années, elle adopte et accueille 12 enfants venus de 4 coins du monde, de toutes les couleurs et religions. Elle surnomme ses enfants « ma tribu arc-en-ciel ».
Joséphine est morte le 12 avril 1975 à Paris, à l'âge de 68 ans. Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker a été panthéonisée au cours d'une cérémonie solennelle.
Aujourd'hui, elle repose en paix au Panthéon à Paris.
Le Panthéon regroupe toutes les personnes qui ont incarné les valeurs de la République.
Merci de nous avoir écoutés.
La série de podcasts « Les valeurs de la République en action » s'achève. Un grand merci aux élèves pour leur travail et leur implication. Un grand merci à M. Gavigné, notre professeur documentaliste, pour ses conseils, son expertise et ses compétences. Et rendez-vous peut-être l'année prochaine à la découverte de nouvelles personnalités.